C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs. I have a
dream. Enfin, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui tiens le micro, mais Anne-Gaëlle Goluchot. De retour au Pays des Cigales, en Avignon, le dialogue se poursuit entre une conteuse et un hypnotiseur. Et non des moindres, il s'agit de Kevin Finel. Kevin Finel est créateur de l'Académie de recherche pour la connaissance et la recherche sur l'hypnose érectionnienne. On parle imagination, écoute, attention à l'autre, position du conteur et de l'hypnotiseur. Une mine d'or.
À la barrière du jardin, la sorcière a décroché un crâne. Un crâne dont les yeux rouges brillaient comme des feux. Elle a posé le crâne sur un bâton, l'a tendu à la petite fille et a dit « Tiens petite, c'est ton feu. Si tu en prends soin, il réchauffera et illuminera ta maison jusqu'à ton dernier souffle. » Et maintenant, petite, maintenant, petite, file. Et la petite fille s'est retrouvée dehors. Elle tenait dans sa main le crâne aux yeux ardents. Les yeux brillaient comme des feux. Dans la poche de son tablier, la poupée lui parlait. Tu reconnais? Regarde comme les herbes ont poussé. Tu suis le soleil, toujours tout droit, droit devant. Et c'est en écoutant sa poupée que la petite a traversé la forêt. Les conteurs souvent disent, mais moi, qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas grand-chose. Je sers de passeur pour raconter l'histoire.
Oui.
Entre conteurs, on se dit souvent qu'on fait un métier de feignant, dans le sens où, franchement... on raconte une histoire et les gens ils se font leur cinéma. Mmh. Les décors, la scéno, c'est eux qui la font. Et on fait rien d'autre que de créer à la fois les conditions et à la fois de donner quelques pistes, on pourrait dire, pour que les gens construisent leur truc. Est-ce que tu dirais que l'hypno, il fait ça aussi? Il est actif comment?
Tu sais, c'est...
actif comment? Est-ce qu'il fait quelque chose?
Ben, il essaie d'en faire le moins possible. Et tu me fais penser à quelque chose. C'est arrivé qu'il y a des gens qui étaient dans le métier du conte et qui apprennent l'hypnose. Et souvent, je les ai trouvés très justes dans leur accompagnement. Pour une raison toute simple, c'est que justement, ils ne cherchaient pas à faire pour l'autre. Ce qui est le travers premier souvent des accompagnants, qui essayent d'avoir la solution pour l'autre, de donner des conseils, de savoir en fait, de se mettre en position de sachant. Alors que le praticien en hypnose, il ne se met surtout pas dans cette posture-là parce qu'il veut que la personne trouve par elle-même. Il veut que la personne trouve sa solution. Donc il va l'accompagner, il va la rassurer, il va lui permettre les conditions d'eux, il va créer par la parole un univers dans lequel la personne va pouvoir évoluer, mais à aucun moment il est le porteur de solutions. Tu vois, une des choses qu'on apprend tout de suite en hypnose, c'est qu'on ne répond jamais aux questions, qu'on repose d'autres questions. Et un peu comme souvent les magiciens dans les contes, hein, on donne des énigmes.
C'est très énervant.
C'est ce personnage qui est un peu insaisissable. Et c'est paradoxal parce que souvent les gens viennent nous voir en disant voilà, mais qu'est-ce que je dois faire pour retrouver ma joie de vivre? Qu'est-ce que je dois faire pour arrêter de fumer? Qu'est-ce que je dois faire pour me sortir de ce deuil? Et nous, on leur dit souvent je sais pas en fait, mais je peux vous guider vers un état dans lequel vous trouverez la solution. Et on se met dans ce qu'on appelle nous une position basse, c'est notre terme technique, de non-sachant. La position haute, ça serait la position du sachant qui dit faites ça et ça ira mieux. Et nous, on dit je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Mais je peux vous inviter à le trouver.
Et je
peux
c'est marrant parce que les conteurs ont tout un tas, les conteurs traditionnels en tout cas, ont tout un tas de formules qui servent à dire on ne sait rien. D'ailleurs, plus je dirais, plus je mentirais. Et dire ok, je te raconte des conneries, tu prends ce que tu veux là-dedans. Mmh. Et ce que tu ne veux pas, tu ne le prends pas parce que de toute façon, c'est des mensonges.
Tu sais, c'est drôle parce que Je pense même aux maîtres spirituels dans certaines traditions, tu sais, qui fonctionnent exactement comme ça. Alors, il y a aussi l'inverse, hein. Il y a aussi les gourous qui vont dire « faites comme moi, faites ça, etc. » Mais on trouve aussi... Oui, j'imagine dans toutes les professions, et je crois que chez les hypnotiseurs, il y en a quelques-uns aussi, mais normalement, en tout cas, il me semble que même dans les voies d'éveil, même dans les voies, dans les traditions, quelles qu'elles soient, en fait, orientales, occidentales, etc., il y a normalement, souvent, cette posture du « il n'y aura aucune réponse, et il n'y a rien à trouver, il y a juste à expérimenter, à vivre, et donnons-nous simplement le meilleur cadre pour le faire ». Alors c'est vrai que d'un côté, on peut avoir l'impression de rien faire quand on fait ça, mais je crois qu'on fait aussi le plus beau cadeau possible à quelqu'un, puisqu'on lui fait confiance. Et c'est pas si courant que ça dans la vie, les gens qui nous font assez confiance pour ne pas nous donner la solution.
Fait quand même franchement peur, et en même temps on fait que ça. Mmh. On sait que dans telle histoire il y a un moment où on doit passer par là, on doit y aller, quoi. Il n'y a pas de problème, et c'est même assez marrant, on pourrait dire à certains moments quand tu racontes plusieurs fois la même histoire d'affilée, il y a des moments où tu as l'impression que maintenant tu appuies sur le bouton et la salle rit. Oui. Maintenant tu appuies sur un autre bouton, alors c'est des boutons vivants.
Oui.
Et on appuie sur d'abord sur les nôtres, forcément. Mais quand même, il y a un moment, tu sais que on va vers l'émotion, et si on n'y touche pas, on a raté un peu un truc.
Mmh. Oui, je suis d'accord.
Parce qu'il faut passer par là, quoi. Alors c'est une manipulation consentie, joyeuse, la plupart du temps. Enfin, les gens, ils sont quand même payés pour être manipulés.
Exactement, oui. Ça, je suis bien d'accord.
Mais c'est vrai que on se pose moins la question. Mais quand même, avec mes collègues, l'autre jour, c'était une vraie discussion. Est-ce que tu manipules ? Ah non. Bah, franchement, si tu ne manipules pas, si tu m'emmènes pas quelque part, si tu me fais pas expérimenter des trucs que j'aurais pas expérimenté toute seule, c'est dommage.
Tu crois pas que c'est juste une mauvaise connotation du mot ?
Oui.
Parce qu'à l'origine, ce mot ne veut pas du tout dire un truc négatif. Ce mot est très neutre, en fait. Du reste, on devrait y accoler un adjectif qui est manipulation positive ou manipulation négative, à la limite. Mais je crois qu'il y a des peurs derrière, et il me semble qu'on est dans une société aussi parfois un peu bien pensante, où dès qu'un mot fait un peu peur, on s'oblige à ne pas l'utiliser. Ce qui me semble même dangereux, hein, quelquefois, puisqu'on perd des mots, quelquefois, de vocabulaire, sous prétexte de ne pas pouvoir les utiliser. Et je pense qu'on, comme on pense avec les mots qu'on nous donne, si on ne nous donne pas certains mots, peut-être qu'on ne peut même plus penser les concepts. Et ça, je trouve ça toujours un peu, justement, très manipulateur. Parce qu'abandonner un mot parce qu'à un moment donné, il est mal compris, me semble être un échec, quelque part. Pour moi, ce mot, il est neutre. Ensuite, il y a des manipulateurs dangereux, et puis il y a des manipulateurs merveilleux. Et je pense qu'un enseignant, il manipule ses élèves, je pense qu'une mère manipule ses enfants, je pense que Et que si je vais voir un kiné demain, je veux qu'il me manipule et la question ne se posera pas. Alors, c'est souvent la manipulation plutôt mentale qui peut faire peur. Par contre, je crois que la seule chose qui peut nous protéger d'une manipulation négative, entre guillemets, c'est d'apprendre aux gens la rhétorique, c'est d'apprendre aux gens à comprendre les leviers de manipulation. Et tout d'un coup, la question ne se poserait plus, puisqu'à partir de là, les gens pourraient être dans le choix. Sinon, s'ils ne connaissent pas ça, ils font un pari qui est celui de l'éthique de la personne qui est en face. Bon, normalement, par exemple, là, je reparle de l'hypnose, mais un praticien en hypnose, il est accompagnant, il est thérapeute. On va estimer qu'il est là pour le bien de l'autre. Ça demande qu'il fasse un travail sur lui, ça demande qu'il sache gérer son transfert, son compte en transfert, qu'il sache qu'il ne soit pas dans une notion de pouvoir, etc. Et normalement, quelqu'un qui se forme à ça va veiller à ça, justement, à développer ce qu'il faut pour ça. Et je pense que chez un compteur, de la même façon, le compteur, même s'il vient aussi pour se faire plaisir, parce qu'il faut qu'il aime ce métier, j'imagine, pour bien le transmettre, il est dans le don aussi, il a envie de faire plaisir à l'autre, il a envie de faire découvrir à l'autre. Donc je pense qu'on est un peu dans quelque chose qui peut être similaire. Mais je ne vois pas comment renier la manipulation protégerait de quelque chose. Ce que je remarque dans l'hypnose, on étudie évidemment la manipulation, par le langage, par les émotions, par tout ça, mais parfois pour ne pas l'utiliser justement. Parce qu'une fois qu'on connaît bien les règles de manipulation,
savoir
peut-être qu'on va être...
ça marche pour...
C'est ça, on va être très sobre après dans notre manipulation. Pour justement éviter d'amener quelqu'un vers un endroit où il y aurait de la fragilité, on va faire très attention. Mais pour faire attention, il faut savoir comment ça fonctionne.
C'est la responsabilité là, dans ce cas-là.
C'est ça, les plus grandes erreurs de manipulation sont faites par des gens qui n'ont pas étudié la manipulation. Parce que justement, ils peuvent quelquefois faire beaucoup de dégâts. Moi, je vois ça là encore en faisant un peu de thérapie familiale, par exemple, on voit plein de parents qui font beaucoup de mal à leurs enfants, avec toute la bonne volonté du monde et tout l'amour qui puisse exister, un amour inconditionnel, mais parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne l'humain. Donc, ils vont tout d'un coup, quelquefois, avoir une façon d'être en croyant faire du bien qui va détruire l'identité de quelqu'un. Et je pense qu'on devrait pouvoir apprendre ça.
La manipulation aussi bien. C'est vrai que la rhétorique, c'était autrefois, ça faisait partie des études classiques.
En Grèce, on pensait qu'un citoyen ne pouvait pas l'être s'il ne connaissait pas la rhétorique. Il fallait qu'un citoyen soit éduqué à ça. Moi, je me pose la question, on avait écrit avec un ami un livre sur la manipulation politique, en se disant, ce serait bien que...
Qu'on sache. Comment ça marche.
Pour choisir, en fait. Et on ne prenait pas parti, c'est-à-dire que la manipulation, de toute façon, elle est partout. Mais il y a besoin que les gens soient informés de ça, non pas pour devenir paranoïaque, mais pour se dire...
Non, mais connaître les leviers...
Voilà, c'est ça, juste être en conscience, en train d'observer un phénomène et de se dire, là c'est une manipulation que je veux bien prendre, ou là c'est une manipulation qui ne me convient pas, et sentir les sous-entendus. Je crois qu'en plus, si tout le monde connaissait ces principes-là, peut-être qu'ils seraient moins utilisés parce qu'ils deviendraient tout d'un coup inefficaces en fait. Pourraient revenir à quelque chose un peu plus sincère et direct.
Petite graine de moi, en moi je vous ai porté, demain vous me porterez. Dormez, dormez doucement, demain vous serez plus grand que moi, vous me porterez. Petit rêve, petit monde, petite graine de moi.
L'ombre bleue, la moins que rien, celle qui a pris rien, rien, dans ses bras, un bref instant pour le sortir du néant, le regarde en souriant. Partout elle l'a suivie, elle est devenue géante, aussi géante que lui. D'un côté elle est très sombre et de l'autre illuminée. Elle le fuit, elle le suit, il la fuit. Mais il a couru si vite qu'il lui est passé devant et maintenant il devient l'ombre de l'ombre qu'il fuit. Elle rit, elle lui dit, n'aie pas peur. Tout est possible lorsque le monde commence. Le rien, c'est comme l'enfance. On choisit qui on sera. On choisit son haut, son bas, son froid ou alors son chaud. Sa forme ou bien sa matière. espace, ou bien son temps, sa musique, ou sa lumière. Animal, arbre, montagne, ruisseau qui s'en va coulant. Montagne, grenouille ou soleil brillant, il n'y a plus qu'à apprendre.
Et la voilà l'ouette, jouant autour de sa tête.
Mais rien devient rapace avec ses griffes et son bec, il veut la faire disparaître.
Il veut la faire disparaître. Devient un nuage pour que ça pèse sa rage.
Mais rien devient orage, devient éclairs et tonnerres pour l'éparpiller en l'air.
Pour l'éparpiller en l'air, elle devient de la pluie pour éteindre sa folie.
Rien devient un torrent puissant qui emporte tout pour la noyer dans la boue.
Elle se change en saumon, sautant en faisant des bonds.
Rien devient un pêcheur pour la prendre à la moisson et l'assommer d'un bâton.
Et l'assommer d'un bâton, elle devient un buisson.
Il devient un bûcheron.
Elle devient hérisson.
Il devient un gros camion pour la coller au goudron.
Elle se change en rosée pour l'arroser de raison.
Rien devient pollution, noir, violacé, marron, pour l'arroser de poison.
Alors l'ombre redevient ce qu'elle a toujours été. Elle redevient beauté.
Et rien qui se souvient redevient terrorisé. Devient une bombe fin du monde qui menace d'exploser si quelqu'un ose bouger.
Et tout à coup tout s'arrête, le Big Bang éclate de mort, l'ombre brûle à moins que rien, mais Cassie et Megana, et tous les petits rien
se dit, j'ai gagné.
Nous sommes toujours dans ce jardin, en Avignon.
Oui.
Et j'ai encore des questions à poser, Kevin Finel. Et par exemple,
alors, la question de la relation, ça c'est une des choses fondamentales dans le travail des conteurs, quand ils se définissent par exemple par rapport au travail des acteurs.
Oui.
Ils disent, le travail du conteur c'est un art de la relation, on est en permanence en relation, ça ne veut pas dire qu'on fait participer le public. Mais ça veut dire qu'on est face au public en tant que soi et pas en tant qu'un personnage.
Oui.
Que quand on s'adresse à l'autre, on s'y adresse en vrai.
Mm-hmm.
Et que on peut du coup aussi utiliser ce qui se passe. Enfin, un camion qui passe plutôt que ça peut rentrer dans l'histoire, pourquoi pas.
Oui.
Comment faire avec justement le ce qui se passe tout de suite, le présent. L'histoire que tu es en train de raconter, normalement tu la commences puis tu dois la terminer.
Oui.
Qu'elle te fait, parce que tu la racontes, pour la raconter tu la traverses, et quand tu la traverses, tu n'es pas indemne, ça change à l'intérieur de toi, ce qu'elle te fait. Ce qu'elle fait à l'autre, en tout cas ce que tu perçois de ce qu'elle fait à l'autre, et puis de ce qui se passe dans ce truc-là. Est-ce que tu pourrais dire... est-ce que ça te semble juste de dire que le travail d'hypnose, c'est aussi un travail de la relation ?
Oui, ça commence comme ça même.
Ça commence comme ça.
Parce que déjà, pour conduire quelqu'un, il faut que la relation soit bonne. Il y a un acte de confiance qui est très grand avec l'hypnose. On va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va lui parler de choses parfois très intimes, parfois des choses dont on ne parle pas assez proche. On va fermer les yeux devant lui, on va aller dans d'autres états de conscience qu'on ne connaît pas souvent, parce que notre culture nous apprend peu les états de conscience. Et donc, il y a un acte de confiance qui est vraiment énorme. C'est très touchant, même, cette confiance-là. Alors, on va essayer de la respecter et puis d'en être digne. Mais ça demande de la créer, souvent, cette confiance-là. Les gens viennent et ils ont besoin parfois de tester un peu, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de se sentir écoutés, ils ont besoin de se sentir entendus. Et dès qu'on rencontre une personne et qu'on sait qu'on va vivre un moment hypnotique un peu plus tard, on doit créer cette relation. Alors elle passe par beaucoup d'écoute et beaucoup de disponibilité et par une grande confiance en l'autre. Bizarrement, un hypnotiseur n'a pas forcément besoin d'avoir confiance en lui, il a besoin d'avoir confiance en l'autre. C'est dans le terrain imaginaire de l'autre qu'on va jouer. Confiance en sa capacité d'imaginer, confiance en sa capacité de changer. Et si on fait sentir ça à l'autre, ça va créer une certaine confiance, ça va certain un vrai rapport, une belle relation, puisque la personne va se sentir être le centre d'attention pendant un temps. Et puis,
Est-ce que dans cette attention, tu es aussi attentif à toi-même, j'imagine.
Oui, bien sûr, parce qu'on a aussi un miroir de ce qui se passe.
L'histoire qui est partagée entre toi et la personne qui est en face de toi, à des moments, ça peut être, comme tu disais, super émotionnel.
Tout à fait, oui. Ouais.
Est-ce qu'un conteur, il ne se pose même pas la question, il rentre dedans.
Oui.
Parce que c'est lui qui... C'est en rentrant dedans qui permet à l'autre de faire pareil, on pourrait dire. Mais on a l'image du thérapeute comme un espèce d'être un peu neutre avec une...
Pas du tout.
Avec une blouse et puis...
Non, pas du tout.
C'est intéressant.
Alors je sais qu'il y a des formes d'accompagnement où c'est le cas. En hypnose, pas du tout. On veut rentrer dans le monde de l'autre, en fait. Et pour ça, on va lui ressembler, on va se mettre en miroir de l'autre. S'il a une émotion, on va se permettre de la partager. Pour qu'il puisse se sentir autorisé à la vivre. Si on est en face de quelqu'un qui est froid, on se bloque un peu dans nos émotions. Et en hypnose, on a besoin des émotions. Et on va même faire partie de l'histoire de l'autre. Il va fermer les yeux et on va rentrer dans son monde intérieur. On est un peu un metteur en scène. Nous, on va mettre un peu les choses, on va les organiser. La personne est un peu à la fois l'acteur et le spectateur. Elle est actrice parce qu'elle est au centre de l'histoire. Et en même temps, elle va la regarder de différents points de vue, cette histoire-là. Mais nous, on est avec elle et on est une sorte de petite Jiminy Cricket. Quoi. On va lui souffler des choses, on va être sur son épaule pendant son voyage intérieur et on va avoir un rôle à jouer. Donc, on doit faire partie de l'expérience. Et je prends cette métaphore-là du Jiminy Cricket parce que tout d'un coup, on est un petit peu au fur et à mesure qu'on va prononcer les mots, la réalité intérieure de la personne va changer. Donc, on va influencer, on va proposer et ensuite, on va voir qu'est-ce que fait la personne avec ça, de quoi elle s'empare en fait dans ce qu'on va lui proposer.
Ok. La question de l'identification.
Oui.
Dans les contes, c'est très évident. Alors, tu as toute la mythologie avec les dieux, ces grandes figures d'archétypes, et puis ces personnages dont on suit l'histoire.
Oui.
Qui commencent en général très très mal. On suit les difficultés, les peurs, et puis comment le personnage mobilise des ressources insoupçonnées, et puis comment, en général, ça se termine bien, un conte. Ça sert même à ça, je crois. Est-ce que tu dirais qu'il y a une utilisation de ça aussi, d'identification en hypnose? Et pourquoi?
Oui.
Pourquoi faire?
Alors, il y a besoin de cette identification. Il faut que la personne puisse se rappeler à un moment donné qu'elle est actrice de sa vie. Et donc, qu'elle a une capacité de décision, d'influence pour elle-même. Et pour ça, on va faire en sorte qu'elle ait le rôle principal.
Tu vois, quand elle a le rôle principal depuis longtemps et qu'elle croit qu'elle est vraiment dans les contes, c'est Yvan le petit ou le bonnet, il ne sait rien faire.
Oui.
Bon, et puis, il va découvrir des choses. Comment ça se passe, cette transformation-là?
Alors, ça passe par un autre état de conscience, justement. Dans son état de conscience ordinaire, la personne a l'impression de se connaître. Et nous, on va l'amener dans un autre état de conscience, où tout d'un coup, c'est une autre configuration d'elle-même. Et celle-là, elle ne la connaît pas. Donc,
d'accord.
Elle a besoin de découvrir...
C'est plutôt à ça qu'à ça.
C'est ça. Pour reprendre cette métaphore dont je parlais tout à l'heure, il y a la personne en conscience, dans son fonctionnement habituel, et tout d'un coup, on va l'amener vers une facette inconsciente d'elle-même. Facette inconsciente qui a peut-être un caractère différent, qui a peut-être des ressources différentes, des qualités différentes. Et elle va déjà s'approprier ça, peut-être même faire communiquer ces différentes facettes pour qu'elle puisse apprendre des choses. Et elle va devenir qu'à parfois plusieurs personnages. Tu vois, on peut dire par exemple à quelqu'un sous hypnose, maintenant vous allez vous connecter à la partie la plus sage de vous, et vous allez devenir cette partie sage de vous. Ou vous allez vous connecter à la partie la plus créative de vous, ou la plus enfantine de vous. Vous allez redevenir un enfant de 5 ans qui regarde le monde avec...
Faire communiquer, dans ce cas-là, les
c'est ça. Donc une personne, elle va prendre parfois plusieurs rôles. Elle a plusieurs rôles à jouer. Chaque rôle va construire une partie de cette histoire. Et à la fin, tout ça va la recentrer sur elle avec des apprentissages nouveaux. Quand elle va revenir en elle, c'est en s'appropriant tout ce qu'elle a rencontré, tous les personnages intérieurs qu'elle a rencontrés. Parfois, on passe vraiment par des personnages. On va passer par l'idée qu'elle va rencontrer un animal, puis devenir cet animal, puis aller chercher les ressources de cet animal, puis cet animal va revenir en elle pour lui donner tout ce qu'elle a appris. Donc on est quelquefois dans des actes magiques, comme ça, des actes où l'imagination vient façonner un peu le réel.
Marrant, hein, parce que évidemment, pour le conte, il y a des gens qui pensent que dans un conte, tous les éléments, les personnages évidemment, le roi, la reine, le prince, le château, la forêt, tout ça, sont rien d'autre en tout cas, c'est déjà beaucoup, que des parties de nous.
Oui.
Et qu'en effet, si elle se marie à la fin, c'est pas que c'est des histoires qui sont pro-mariage ou bien... on rigole, mais il y a eu quand même beaucoup de... Dans les années 70, 80, par exemple, des mouvements féministes qui disaient « Mais c'est quoi cette connerie de la princesse qui attend qu'on vienne la réveiller ?»
Oui.
Et en même temps, si on regarde les choses d'une autre manière, j'espère bien qu'on a tous à l'intérieur de nous... une merveille comme ça, une princesse qu'il faut aller réveiller,
oui.
C'est sûr.
Bah c'est si on le voit à un niveau voilà. En premier degré ou si on commence à s'emparer du conte, oui.
Et donc il y a quelque chose qui est un peu similaire là, si je comprends bien.
Alors, je pense, oui. Tu sais, et là encore, il y a pas mal de recherches aujourd'hui qui vont un peu dans cette direction, mais il semble qu'on est constitué de différentes parties. Alors ça reste un peu une métaphore, hein, évidemment. Mais je crois que dans notre enfance, on apprend vite à s'identifier à une part de nous-mêmes. Et on dit « moi », on dit « je ». Et on croit qu'on pense à la totalité de nous-mêmes, mais peut-être qu'on ne pense qu'à une petite partie de nous-mêmes.
C'est
quand je dis,
la conscience dont tu parlais tout à l'heure.
C'est ça.
Qui c'est qui dit « je » ?
Qui c'est qui dit « je » ? Ça, c'est une question qu'on se pose dans plein de traditions. Hein, et c'est une question qui est très complexe. En tout cas, je crois vraiment qu'il y a cette question de partie. Et parce que je me suis tellement identifié à la partie qui dit « je », je crois que c'est la seule, et je crois que c'est ma totalité. Et puis tout d'un coup, dans un autre état de conscience, en hypnose, je m'aperçois qu'il y a d'autres parties, et que parfois elles auraient envie de dire « je » aussi. Et qu'on est plein à l'intérieur, en fait. Il y a toute une organisation sociale à l'intérieur de nous-mêmes.
Et ça, elles ne sont pas d'accord.
Et parfois, elles ne sont pas d'accord. Il y a une partie de moi qui voudrait être libre, et puis il y a une autre partie de moi qui a envie de prendre une autre décision. Et parfois, elles sont en conflit, ces parties-là. Et il y a une partie de moi que je juge négative. Tu vois, je prends un exemple tout bête. Et ça revient un peu à ce que tu dis. Quelqu'un vient me voir et puis il me dit « voilà, j'ai du poids à perdre, mais je sens qu'il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de manger plein de sucre le soir quand je m'ennuie. Mmh. » Alors cette personne qui vient voir avec cette demande, elle vient du... Quand elle dit « je », elle s'identifie à la partie qui aimerait bien perdre du poids, parce qu'elle pense que c'est la bonne partie d'elle-même, et elle voit qu'une sorte de petit diablotin, la partie qui quelquefois lui dit « allez, prends ta tablette de chocolat et finis-la d'un coup. » et elle vient avec l'histoire que cette partie est contre elle et qu'elle doit lutter contre elle. Voilà.
Enlevez-moi.
Et les gens nous disent, mais tuez cette partie, éliminez-la, je veux l'enlever, je veux la ôter. Et nous, souvent, on va raconter une histoire un peu différente aux gens, que cette partie, elle a quelque chose à apprendre, qu'il n'y a rien qui est négatif en soi, que tout contient un message, un apprentissage. À quoi elle sert cette partie-là? C'est quoi son histoire à cette partie? Qu'est-ce qu'elle a enseigné? Qu'est-ce qu'elle tente de faire?
Donc vous aussi, vous mariez les gens à la fin du conte.
Mais exactement. Exactement, parce que tout d'un coup, les gens vont finir par aimer cette partie parfois. Mmh. Se dire, cette partie, elle n'a jamais été négative. Sa conséquence est négative, mais son intention, elle est positive. Mmh. Alors avec son intention, et c'est un peu sans doute la grenouille qui se transforme en prince, c'est que tout d'un coup, ce que je crois être un truc négatif...
Il y a certains contes où pour qu'elle se transforme en prince, il faut la prendre et la balancer sur le mur.
D'accord, alors je...
Elle le fait cependant, mais il ne faut pas toujours l'embrasser, c'est ça que je veux dire.
En tout cas, parfois on va amener les gens à regarder au-delà des apparences. Et tout d'un coup à se dire, mais la partie de moi qui voulait à tout prix perdre ses 10 kilos, peut-être qu'en fait elle ne veut pas que mon bien, cette partie-là. Peut-être qu'elle est dans une norme sociale, peut-être qu'elle m'oblige à quelque chose, peut-être qu'elle me restreint, peut-être qu'elle a une partie intéressante et une partie négative. Et la partie qui voulait me faire craquer, peut-être que je la vois négative parce que je voulais autre chose, mais peut-être qu'elle m'incite à prendre soin de moi, peut-être qu'elle m'incite à aller vers le plaisir, peut-être qu'elle m'incite à trouver d'autres manières, peut-être plus intéressantes d'aller vers le plaisir, mais en tout cas, peut-être qu'elle me montrait déjà cette voie-là. Et quand les gens arrivent à une réconciliation intérieure à la fin de l'histoire hypnotique, tout d'un coup, ils arrivent au meilleur des deux mondes, quelque part. Il y a une partie de moi qui veut être en santé, et maintenant je sais l'écouter, la respecter. Il y a une partie de moi qui a besoin aussi de plus de folie peut-être dans la vie et de faire attention à mes désirs, et maintenant je sais la respecter. Peut-être que ça va m'amener à perdre du poids, peut-être que ça va m'amener à changer plein d'autres comportements dans ma vie, mais en tout cas à trouver une harmonie, un équilibre. Je crois que les gens viennent morceler et qu'on vient les aider à se réunir.
Au bout de 15 ou 16 ans, il arriva que la jeune princesse qui courait un jour dans le château en montant de chambre en chambre alla jusqu'au haut d'un donjon dans un petit galta où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Cette bonne dame n'avait pas entendu parler des défenses que le roi avait faites de filer au fuseau. « Oh ! Que faites-vous là, ma bonne dame ?» dit la princesse. « Je file, ma belle enfant, » lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas. « Ah ! Que cela est joli ! Comment faites-vous ? Donnez-moi que je vois si j'en ferai bien autant !» Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau qu'elle s'en piqua la main et tomba, évanouie. La bonne vieille, embarrassée, crie au secours. On arrive de tous côtés, on jette de l'eau au visage de la princesse, on la délace, on lui frappe les mains, on lui frotte les tempes avec de l'eau de la reine de Hongrie, mais rien ne la fit revenir. Alors, le roi et la reine firent mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit brodé d'or et d'argent. On eût dit un ange tant elle était belle. Son souffle léger semblait bruissement de feuilles de chêne. La jeune fée, la septième, toucha de sa baguette tout ce qui était dans le château, hors le roi et la reine, et tout le palais s'endormit. Gouvernantes, pages, cuisiniers et marmitons, valets et enfants sages, écuyers et forgerons et aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, les palefreniers, les soldats, tous s'endormirent. Les broches même qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s'endormirent, et le feu aussi s'éteignit. Alors, le roi et la reine, après avoir embrassé leur cher enfant sans qu'elle le s'éveillât, sortirent du château. Aussitôt, des plantes et des arbres petits et grands se mirent à pousser. Aubépines, pruneliers, bulbes et racines, ronces, tiges et épines entremêlées firent une barrière que ni bête ni homme n'aurait pu traverser. En sorte qu'en une heure à peine, on ne voyait plus que le haut des tours du château et encore, de très loin.
Dans les contes merveilleux particulièrement, il est dans les questions tout le temps. Souvent, il est personnifié.
Oui.
C'est la poupée, ou c'est le renard argenté, ou c'est... Enfin, ça prend une forme qui te parle. Il est beaucoup question dans ces contes-là de confiance, tu parlais de confiance tout à l'heure, de laisser faire. Enfin, les personnages ont des travaux impossibles à faire. Tu dois, tu vois ce grand tas de grains de blé d'ici demain matin. Tu dois avoir trié les blés qui sont les grains qui sont abîmés par la rouille et les autres dont je veux faire de la farine. Vas-y, fais-le. Et le héros a fait plein de choses. Il a fait le ménage dans la maison de la sorcière. Il a rangé, il a lavé, tout ça. Mais ça, il peut pas le faire.
Oui.
Et à ce moment-là. Là, en l'occurrence, c'est l'histoire de Baba Yaga, donc c'est la poupée que la petite fille a dans sa poche, qui lui dit, bah écoute, je vais le faire, va te coucher, et je vais faire le travail. Et la chose la plus extraordinaire quand même, c'est que face au danger, parce que la sorcière lui cache, lui dit, si tu le fais, je te donnerai ce que tu es venu chercher, si tu le fais pas, je te bouffe. Et on peut la croire, disons. La plus étonnante, c'est que les personnages le font. C'est-à-dire qu'ils vont se coucher. Avec une espèce de... légèreté, on pourrait dire. Ok, vas-y, fais-le.
Oui.
Il va se coucher, quoi. En toute tranquillité. Tu parlais de la confiance entre la personne qui vient et le thérapeute, mais de la confiance dans le fait qu'il y a une part ou des parts, tu disais, à l'intérieur de nous qui fait le travail. Qu'est-ce qu'on en dit de ça, qu'est-ce que c'est l'inconscient en hypnose? Comment ça se... bon, c'est un peu vaste.
C'est très vaste. Il y a une connexion avec ce que tu dis. C'était une des phrases que répétait le plus grand hypnotiseur du siècle dernier, Milton Erickson, et il disait « On est là pour aider les gens à faire confiance en leur inconscient. » Parce que souvent, ils ont leurs ressources à l'intérieur, mais ils ne le savent pas. Et ils s'empêchent même, ils se censurent pour aller dans ces directions-là. Et j'imagine que dans beaucoup de contes aussi, il y a des gens qui vont avoir des solutions dans leurs rêves. Le monde onirique est très utilisé. Dans beaucoup de légendes, en tout cas, il me semble que c'est le cas, y compris des légendes antiques, etc. Et je pense qu'on utilise beaucoup cette force-là en hypnose. Dans mon état ordinaire de conscience, je cherche à contrôler les choses. Et tant que je cherche à les contrôler, souvent elles m'échappent. Ça va en thérapie de la personne qui veut s'endormir et qui fait de l'insomnie, à la personne qui veut être spontanée et qui n'y arrive pas, à la personne qui voudrait contrôler sa compulsion et qui se laisse prendre par sa compulsion. Et souvent, une des solutions, en tout cas une des parties des solutions, c'est que ces personnes-là lâchent prise. Et on est dans un monde où on nous apprend tellement peu à lâcher prise, on nous fait croire que c'est par le contrôle qu'on y arrivera. Alors qu'en fait, si on regarde un peu notre fonctionnement, on s'aperçoit qu'on ne contrôle pas grand-chose. Et que ce qu'on fait le mieux dans la vie, c'est justement ce qu'on a accepté de ne pas contrôler. On marche bien parce qu'on n'y pense pas. On respire bien parce qu'on n'y pense pas.
Dans les contes, ça paraît très simple. Il lâche toujours, c'est très étonnant. Il lâche toujours. Ce qui représente l'inconscient, on pourrait dire, leur dit, lâche, je vais faire. Ils le font tout de suite. Si j'imagine, c'est plus délicat.
C'est plus délicat parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de lâcher prise. Donc il faut les aider, les habituer à cette idée. Et c'est justement dans d'autres états de conscience qu'ils peuvent accepter cette idée. Dans un état ordinaire de conscience, c'est une idée qui est très difficile pour beaucoup de gens.
D'accord, ça sert à ça.
Et je crois que c'est d'autant plus vrai dans notre monde moderne. Mais dans un autre état de conscience, une personne va se rendre compte de toute la place déjà qu'a son inconscient. Et qu'une fois qu'elle a un cap en tête, qu'elle a décidé de quelque chose, alors peut-être qu'elle peut laisser quelque chose se faire aussi. On dit souvent en fait qu'on vient déposer des métaphores ou des suggestions dans cette part inconsciente et que c'est un peu comme planter des graines et attendre que ça pousse en fait. Il y a justement à être patient et à observer. Et le rôle de l'hypnotiseur c'est ça, c'est d'aller dans l'endroit où c'est fertile pour aller développer, pour aller poser des idées et les laisser grandir après dans l'esprit de la personne.
Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma nodriza en paz. Y si ama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. La 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 la. Te vas a Alfonsina con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueño dormida Alfonsina vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueño dormida Alfonsina vestida de mar. Te vas hacia allá como en sueño dormida Alfonsina vestida de mar.
Et puis il s'est levé, il est allé vers la fenêtre qui donnait par là et il lui a dit « Viens voir, ta première épreuve c'est là, demain. Tu vois, ce champ de cailloux, c'était pas des cailloux, c'était des énormes blocs de granit. » Il a dit « Je t'emmène là demain matin, tu as la journée pour enlever tous ces cailloux, semer du blé, le récolter, faire la farine. Et le soir, tu viens me trouver avec un pain que tu auras fait avec la farine que tu as. Le prince, il a fait comme Anne-Gaëlle, il a fait... Non, mais personne ne peut faire ça. Et l'enchanteur, il a regardé, il a dit, ah oui, personne ne peut faire ça. Ben, ta vie m'appartient. Bon, le soir, tout le monde est allé se coucher. Lui, il n'a pas trop bien dormi. Le lendemain matin, on l'a emmené dans le champ de blocs de granit, et puis on l'a laissé là. Puis c'est du bas, pff, c'est peut-être pas des vrais cailloux. Alors il a essayé de les pousser, mais... C'était des vrais cailloux. La seule chose qu'il a pu faire, c'est de ramasser une pierre qui était grosse comme ça, et encore... Il a reposé, il s'est assis dessus. Il allait se mettre à pleurer quand il s'est rappelé de ce que lui avait dit la jeune fille. Alors il a dit comme ça, Blanca Flor, j'ai besoin de ton secours. Et à peine il avait dit ça que Blanca Flor, elle était à côté de lui. Elle a dit, ben alors, qu'est-ce qu'il t'a demandé mon père? Eh ben, vu que j'enlève tous ces cailloux, que je sème du blé, que je le récolte, que je fasse la farine et que je lui apporte un pain que j'aurais fait avec ça. Et Blanca Flor, elle le regarde, elle dit, oh, ça c'est pas difficile, écoute, je m'encharge. Dis donc, t'as mal dormi, hein, t'as mauvaise mine. Écoute, repose-toi là sous l'arbre, je m'en occupe, prends des forces, ça va pas toujours être facile comme ça. Alors lui, il s'est installé sous un arbre et Blanca Flor, elle s'est mise au boulot. Elle prenait les cailloux, fiou, 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 elle a enlevé toutes les pierres comme ça, elle a labouré, elle a semé le blé d'un geste, fiou, elle a fait chauffer le soleil, elle a moissonné, elle a pété, puis lui, il s'est endormi pendant ce temps-là. Puis le soir, elle l'a réveillée avec un pain tout chaud qu'elle avait préparé. Elle lui a dit, tiens, voilà le pain. Va au château. Mais si on se voit, on se connaît pas.
On parlait tout à l'heure des contes merveilleux, mais en fait, il y a beaucoup de familles de contes. Mmh. Ceux qui servent à créer de la confusion, et que traditionnellement, par exemple, on racontait avant un conte merveilleux. Ceux qui servent à proposer au public de jouer ensemble et d'entrer dans une forme de synchronisation rythmique, ce pour rire, ce pour bousculer l'ordre des choses et proposer une forme de décadrage, on pourrait dire, ceux qui sont des énigmes, enfin bref, beaucoup de sortes de contes traditionnels.
J'imagine qu'il y a plein de genres d'hypnose aussi pour faire des choses différentes. Pour aller dans des endroits différents.
Déjà parce qu'il y a plein d'états hypnotiques. Ouais. Il y a plein d'états hypnotiques. Il y a des états qui sont liés à une très grande présence. Il y a des états qui sont plutôt liés justement à une prise de distance par rapport à soi. Il y a des états où on est très connecté au monde. Et puis des états où on oublie le monde pour s'en recréer un nouveau. Et en fonction de ce qu'il veut faire, l'hypnotiseur va choisir des états qui sont plus adaptés à ce qu'il veut créer. Il y a des états qui sont très légers, où les gens sont pas beaucoup plus loin que dans une rêverie. Il y a des états où les gens vivent physiquement aussi l'hypnose. On parlait du merveilleux tout à l'heure, mais souvent on fait vivre une part de merveilleux aussi aux gens en leur faisant vivre un état qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, avoir une main qui écrit toute seule, l'écriture automatique, c'est quand même merveilleux d'avoir sa main qui écrit toute seule et de pas du tout avoir l'impression de faire quelque chose en conscience. Ou d'avoir les deux mains collées l'une contre l'autre, ça fait très tour de magie d'avoir les deux mains collées l'une contre l'autre, sauf que on voit bien là qu'il n'y a aucun autre trucage que celui de notre illusion mentale. Donc il y a des cas où on va aider les gens à vivre ce merveilleux dans leur corps, et puis des moments où on va les faire sortir justement de leur corps pour qu'ils soient purement dans un monde onirique. Donc là, c'est vrai qu'un praticien en hypnose, après, il apprend tous les outils, a priori, et puis ensuite, il a déjà, il a ses préférences, avec quoi il se sent plus à l'aise, et j'imagine que c'est pareil pour les conteurs. Et puis, il y a aussi les personnes qui viennent le voir, où il va, parce qu'il connaît tous les outils, il va quand même pouvoir tous les utiliser s'il faut pour une personne. Donc on a tous nos tendances, on a tous nos préférences, et puis on a aussi des publics différents.
Tu dirais que tu construis une séance de conte comme on construirait une histoire, avec un début, un milieu, une fin, il y a une stratégie ?
Dans une séance d'hypnose, oui. Ouais. Bon, il y a vraiment une stratégie, il y a vraiment... et plus, je pense, on avance dans la compréhension de l'hypnose, plus on se rend compte que ça ressemble à une histoire, il y a un scénario vraiment de la séance d'hypnose, avec des difficultés que la personne va devoir dépasser, avec des rencontres dans l'expérience, on parlait de ces parties tout à l'heure, on va aller les rencontrer, avec des émotions qui viennent, avec des changements émotionnels, avec des surprises, où parfois le praticien va prendre plusieurs rôles, je disais tout à l'heure qu'il peut être quelquefois l'allié, il peut être quelquefois le méchant de l'histoire, entre guillemets, et parfois, pourquoi pas, au sein d'une même séance, jouer sur ces deux rôles-là. Ouais, je crois vraiment qu'on construit de plus en plus ces séances d'hypnose comme une histoire. Tu vois, il y a un siècle, l'hypnose, c'était rentrer sous hypnose, changer, réveillez-vous.
Dors, je le veux.
Voilà, exactement. C'est le mythe encore que les gens ont parfois.
Vous avez pas répondu.
Oui, voilà. Et regardez-moi dans les yeux ou des choses comme ça. Ça, c'était il y a encore un siècle à peu près. Et puis, ça marchait moyennement, en fait. Ça marchait quelquefois, ce qui était surprenant. Et puis, ça marchait parfois pas du tout. Et tu sais, notamment Milton Erickson, que j'évoquais il y a quelques minutes, quand on lui disait « Mais qu'est-ce que vous faites exactement ?» Il disait « C'est simple, je raconte des histoires aux gens et ils changent. » Ça, c'est la parole d'un hypnotiseur. Et donc, on sent qu'il avait vraiment une capacité à être conteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup influencé l'hypnose et qui a beaucoup travaillé notamment sur les métaphores en hypnose, qui a beaucoup travaillé sur le récit hypnotique. Et je pense qu'il a fait partir l'hypnose dans cette autre direction où de plus en plus, on raconte quelque chose. Je le disais tout à l'heure, le sujet de l'histoire, le héros, c'est notre sujet, c'est la personne qu'on accompagne. Elle peut avoir plusieurs rôles, cette personne-là, pendant l'histoire. Mais à la fin, il y a une fin, en effet. Quand elle revient à elle-même de tout ça, elle sort du pays onirique pour ramener dans sa réalité quelque chose qui a été transformé. Moi, il y a un conte qui m'a beaucoup inspiré dans ma pratique, c'est Alice au Pays des Merveilles, qui est vraiment un conte d'histoire de modification d'état de conscience. Passer de l'autre côté du miroir, pour moi, c'est vraiment l'induction hypnotique. Et de l'autre côté du miroir, il y a ce monde intermédiaire inspiré du réel avec des éléments oniriques qui ressemble beaucoup à ce que vivent les gens sous
avec
hypnose.
Avec le temps, avec le grand, le petit, avec les...
Et puis on sait que son auteur était quand même quelqu'un qui recherchait beaucoup les états de conscience modifiés. Donc je pense qu'il y a vraiment une filiation dans tout ça qui est très forte.
Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai montré la graine à ma mère. Et bien ma mère, elle s'est arrachée les cheveux. Alors j'ai voulu lui expliquer que cette graine allait faire pousser un haricot magique. Et elle m'a répondu « Magique, magique, magique. Tu sais ce qui est magique, mon fils ? C'est ta bêtise qui est magique. Ta bêtise, elle est tellement magique qu'avec ses pouvoirs magiques, elle va nous faire crever de faim. Alors mon gars, ce soir, t'iras te coucher sans manger. Ça fera toujours des économies. » Qu'est-ce qu'elle était en colère ? Elle était dure. Moi, j'avais faim. Il y avait cette graine dans ma main. J'ai failli la mettre dans ma bouche. Et puis finalement, je suis allé la planter dans le jardin. Après, j'ai passé la moitié de la nuit le nez collé à la fenêtre. Je voulais voir ce qui allait se passer. Seulement, il ne s'est rien passé du tout. Parce que la pluie s'est mise à tomber et que mes yeux se sont fermés tout seuls. Et le lendemain matin, au premier rayon du soleil, quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu dans le jardin, il avait poussé un haricot gigantesque qui montait jusqu'au ciel. Je suis sorti en courant et j'ai appelé ma mère de toutes mes forces. Elle est arrivée en me disant « Mais ça va pas brailler comme ça, non, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis elle a vu le haricot et elle est tombée sur les fesses. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ben maman, c'est de la magie. Mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Ben maman, c'est fait pour monter au ciel. Ah ça va pas la tête, non ? Non, on va faire une salade. Mais maman, là-haut, il y a une fée. Ah non, n'importe quoi. Hein. On va plutôt en faire une soupe. Oui, parce que la soupe, ça dure plus longtemps. Mais moi, je pouvais pas attendre plus longtemps. J'ai attrapé la première branche de la tige et j'ai commencé à grimper. À grimper. À grimper. De branche en branche, de feuilles en feuilles. Et c'était dur parce que j'étais pas costaud à l'époque. Mais c'était tellement excitant que je grimpais en chantant « C'est de la magie, c'est de la magie, comme le papy me l'avait dit. C'est de la magie, c'est de la magie, comme le papy me l'avait dit. »
Tu as entendu parler de Amadou Ampateba?
Non, j'ai déjà entendu le nom.
Il est peu connu comme personne, mais il a dit une chose dans un discours à l'UNESCO qui est très connu. Par contre, il disait, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle.
Oui, ok.
Un grand défenseur de l'oralité et du recueil de l'oralité pendant qu'elle était encore vivante.
Oui.
Et qui disait ça à propos des contes, que le même conte, il peut servir aux enfants qui trouvent que c'est un récit fantastique, il peut servir aux adultes, aux hommes, aux femmes, aux vieillards qui ouvrent dedans éventuellement un récit de sagesse. En tout cas, le conte était beaucoup utilisé pour instruire. Il y a eu en France une femme qui a beaucoup fait pour ça, qui s'appelle Suzy Platiel, qui est ethnolinguiste,
oui,
et africaniste, qui a beaucoup étudié comment on utilisait le conte en Afrique pour enseigner, et qui a rapporté ça en France. Donc il y a un certain nombre d'instituts qui se servent de ça aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu dirais de... est-ce que... Il peut y avoir un rapport entre l'hypnose et l'éducation?
Ah oui, il y en a même plusieurs, oui. alors là aussi, c'est assez vaste. Déjà, je pense que l'hypnose s'intéresse au fonctionnement de notre cerveau, de notre imaginaire, de nos représentations, et que forcément, ça nous a amené à comprendre des choses sur la façon dont les gens apprenaient. Tu vois, il y a assez peu de... Et c'est un paradoxe, hein, mais un enseignant dispose de peu de connaissances en pédagogie dans sa formation. Comment on apprend? Comment fonctionne le cerveau? Comment fonctionne la mémoire? Comment fonctionne la concentration? Moi, je me rappelle en tant qu'enfant, quand je posais des questions à mes enseignants qui étaient de dire « mais comment j'apprends ?» Quand ils me disaient « concentre-toi », quand je disais « mais comment je fais pour me concentrer ?» ils ne savaient pas me répondre. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui encore... Voilà. Un hypnotiseur, il a un rôle particulier à jouer. Il va faire des séances avec quelqu'un, souvent quelques séances, et ces séances doivent avoir un impact assez fort sur la personne. Cette personne doit vivre des changements dans sa vie, dans sa construction, en quelques heures finalement, puisque quelques séances c'est quelques heures, et c'est qu'une goutte d'eau dans une vie. Donc on s'est beaucoup intéressé à comment faire des suggestions qui vont avoir une résonance dans l'esprit de quelqu'un, qui vont continuer à vivre dans l'esprit de quelqu'un. Et au fond, c'est la question que se pose aussi un enseignant: comment mon cours, il va pouvoir atteindre la mémoire de quelqu'un? Comment mon enseignement, il va pouvoir rester et être disponible pour que quelqu'un s'en serve? Moi, le nombre de cours que j'ai pu suivre en tant qu'enfant, où je me disais j'ai compris, puis 15 jours après, quand on me posait la question, je ne savais plus, parce que j'avais révisé pour l'examen et que le lendemain de l'examen, ma mémoire avait un peu évacué ça. Ben, j'aurais aimé qu'on m'apprenne comment faire fonctionner ma mémoire à long terme, comment faire passer une connaissance de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Et bien, je crois qu'un praticien en hypnose, il a connaissance de ça. Donc, il a la capacité à ramener dans l'enseignement quelque chose qui va, pourquoi pas, aider un enseignant à mieux transmettre. On a aujourd'hui beaucoup d'enseignants qui viennent apprendre l'hypnose pour être de bons pédagogues. Ils vont ajouter certains outils de l'hypnose à leur connaissance en pédagogie. Et puis, je pense aussi qu'on peut aider quelqu'un à apprendre et à désapprendre. Quand quelqu'un, par exemple, a appris à avoir peur de quelque chose, peut-être qu'on peut l'aider à ne plus avoir peur de quelque chose, à transformer sa peur en autre chose, à la dépasser. Et ça, c'est important aussi dans l'enseignement, puisque... Enseigner à quelqu'un, c'est pas seulement lui apprendre des connaissances, c'est aussi lui apprendre ce dont il a besoin pour vivre plus tard. Souvent, on se demande à quoi sert l'éducation. Ben, à ce qu'un enfant puisse être un adulte épanoui, en fait, a priori. Je crois que c'est en Suède, il me semble, si je dis pas de bêtises, en tout cas un pays nordique, où on pense que la mission de l'école est d'adapter les enfants au mode de société qu'il y aura dans 20 ans, c'est-à-dire la génération suivante. Donc, ils se posent la question de quoi aura besoin un futur adulte, et ils essaient de lui transmettre. Enfin, je crois qu'on n'a pas encore trop cette idée-là. Elle est évoquée un peu, il me semble, mais elle n'est pas encore au centre des recherches sur la pédagogie et sur l'éducation. Je pense qu'en hypnose, on a quelques clés par rapport à ça.
D'après toi, ça pourrait être intéressant d'apprendre en tout cas des notions petites à l'école?
Ben oui, moi tu sais, je rêve d'un cours de cerveau au CP.
Un cours de cerveau.
Ça serait intéressant qu'au CP on apprenne tous un peu comment on fonctionne, c'est quoi une émotion, comment fonctionne un état d'esprit. Je disais comment on mémorise, c'est tout bête, mais on passerait 15 jours de notre vie à apprendre à mémoriser. À apprendre à mémoriser visuellement, à apprendre à mémoriser avec nos mémoires auditives, à apprendre à mémoriser avec la mémoire du corps. C'est 15 jours, c'est pas grand chose, mais t'imagines le temps gagné derrière, le nombre de centaines, de milliers d'heures gagnées derrière. On pourrait apprendre aussi à aimer apprendre. C'est tout bête, mais qu'est-ce qui fait qu'on aime un cours ou pas? C'est que, en général, l'enseignant est un bon conteur ou non? Mais plutôt que ça soit un peu aléatoire, parce que tous les enseignants ne sont pas toujours des bons conteurs, peut-être qu'on pourrait apprendre à aimer apprendre.
Oui, c'est ça, il faudrait l'apprendre.
On pourrait apprendre la curiosité, on pourrait apprendre la concentration, j'en parlais tout à l'heure. On pourrait apprendre à mobiliser nos ressources, à avoir confiance en nous. Un cours du cerveau, ça ne serait pas forcément des années d'apprentissage, ça serait quelques semaines très ciblées, ou un cours un peu disséminé comme ça tout au long d'une année, où un enfant, à la fin, aurait tout ce dont il a besoin pour ensuite être à l'aise dans son apprentissage. Et aujourd'hui, on a les outils pour ça.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de l'hypnose, le versant thérapeutique.
Oui.
Mais en fait, là, il y a aussi ce côté enseignement, là, pour le coup.
Bah, tu sais, pour moi, déjà, le mot thérapeutique, c'est un mot que j'utilise assez peu, parce que pour moi, on fait toujours de la pédagogie. Quand une personne vient, c'est qu'elle ne sait pas changer. C'est un savoir qui lui manque.
Je le dis parce qu'on l'entend.
D'accord. Ah oui, c'est une nouvelle vie qui commence. Oui, je pense que souvent, en fait, thérapie, ça voudrait dire soigner ou guérir ou réparer. Et je pense que souvent, les gens ne sont pas abîmés ou fragiles. Non, ils ont besoin d'apprendre. Ils ne savent pas comment changer. Ils ne savent pas comment évoluer. Et les histoires qu'on leur raconte les aident à trouver des ressources d'évolution. Je crois qu'on est plus souvent des pédagogues et des enseignants que des thérapeutes, en fait.
Pendant presque 3 ans, la reine avait déroulé le fil de ses histoires. Cependant, ce matin-là, sage, elle se tut. Le roi était guéri. Il n'avait plus envie de tuer personne, et encore moins Scheherazade.
Je sais aimer et tisser. Je sais toutes les histoires. Fil d'amour, de secours. Je sais aimer et tisser.
C'est un plaisir.
C'est super. Kevin Finel, merci beaucoup de cet entretien.
Merci à toi.
C'est pas pour dire, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez au cours de ces 2 grands entretiens... entendu des extraits d'histoire des conteurs Bruno de la Salle, Micheline Denocq, Angel Goduchot, Claire Garrigue, des musiques de Lars Danielsson, d'Avishai Cohen, de l'ami et compositeur et pianiste Gerardo Reres-Lecam et du joueur de cymbalome Mireille Trestian. Si l'émission vous a plu, vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site c'estpaspourdire.fr ainsi que ses plus de 80 petites sœurs. Vous pouvez nous laisser des suggestions, directes ou indirectes, d'émissions, vos remarques et vos encouragements sur la page Facebook qui nous feront toujours plaisir. En attendant, eh bien, vous pouvez prendre une bonne inspiration, vous étirer, ouvrir les yeux et vous préparer à profiter des bienfaits de cette séance. Salut !